auditeurs de Radio Albigès, bonjour. C'est le groupe Amnesty International d'Albi qui vous présente son émission mensuelle, les Chroniques Amnestiennes, émission sur les droits humains dans le monde. Aujourd'hui, Patricia, Jean-Michel et Jean-Marie animeront l'émission. Bonjour.
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 Le début de notre émission sera consacré au rapport annuel 2021 que vient de publier Amnesty International. Ce rapport dresse un constat implacable de la situation des droits humains dans le monde. Nous comprendrons à travers ses principales conclusions pourquoi le monde d'après n'a pas eu lieu. Nous examinerons rapidement ce qu'il faut en retenir pour la France et nous conclurons que la devise « liberté, égalité, fraternité » est de plus en plus mise à mal. Nous examinerons ensuite la situation en Éthiopie où crimes contre l'humanité et nettoyage ethnique sont malheureusement en cours dans le Tigré occidental. Après une pause musicale, nous ferons le point sur les crimes de guerre commis par les forces russes en Ukraine en examinant les témoignages recueillis par Amnesty International dans des villages autour de Kiev. La communauté internationale doit demander des comptes à ceux qui sont à l'origine des souffrances du peuple ukrainien. Et nous terminerons en abordant le problème de l'accueil des réfugiés en Pologne. Nous avons des éléments qui soulignent l'hypocrisie du traitement inéquitable réservé aux demandeurs d'asile, aux demandeurs et demandeuses d'asile. Bien, donc nous allons commencer notre émission par ce rapport annuel 2021, en général très attendu, qui fait le point donc sur les droits humains dans le monde. Début avril, ce rapport paraît, il dresse, comme je l'ai dit en introduction, un constat implacable sur la situation des droits humains dans le monde en 2021. C'est un état des lieux qui couvre 154 pays, dont la France, et qui montre comment, suite à la pandémie, les inégalités se sont encore creusées en raison de l'avidité des multinationales et avec l'assentiment des États.
Oui, alors le rapport pointe aussi la paralysie des instances internationales et également l'inaction des grandes puissances qui ont favorisé la persistance ou la multiplication des conflits. Alors en Afghanistan, au Burkina Faso, en Éthiopie, en Israël, dans les territoires palestiniens occupés, en Libye, au Myanmar ou encore au Yémen, et qui frappe aujourd'hui à nouveau en Europe avec l'invasion de la Russie en Ukraine.
Enfin, notre rapport dénonce la manière dont les États ont redoublé d'efforts pour faire taire toute voix critique partout dans le monde.
Alors, on va essayer de voir un petit peu en synthétisant ce qu'il faut en retenir, Patricia.
Les pays dits à faible revenu et les populations marginalisées ont été les plus durement touchés par la crise du Covid-19. 4% de leur population présente un schéma vaccinal complet, ce qui n'est pas beaucoup.
Autre point, l'échec de la communauté internationale face à la multiplication des conflits a ouvert la voie à de nouvelles escalades et à la guerre en Ukraine.
Le rapport constate qu'au moins 67 pays ont adopté de nouvelles lois restreignant la liberté d'expression, d'association ou de réunion.
Et aussi, les technologies numériques ont été utilisées comme des armes par les autorités pour limiter les libertés.
Autre aspect, plus d'un tiers des pays sur lesquels nous avons enquêté ont refoulé illégalement des personnes réfugiées et migrantes.
On peut voir également que des organisations non gouvernementales ont engagé des actions judiciaires et porté plainte devant la justice pénale contre des multinationales telles que Nike, Patagonia ou CNA pour complicité de travail forcé dans la région chinoise du Xinjiang.
En ce qui concerne le projet Pegasus, une enquête qu'Amnesty International a menée conjointement avec un collectif de journalistes a révélé qu'un logiciel espion de la société israélienne NSO Group avait été utilisé contre des chefs d'État, des militants et des journalistes.
Et enfin, pour revenir à la crise du Covid, le rapport montre que face à cette crise, les pays riches et les grandes entreprises qui avaient promis un monde meilleur, de reconstruire en mieux, s'est traduit par de fausses promesses et des slogans creux. En réalité, en 2021, le monde d'après n'a pas eu lieu. On en a beaucoup parlé du monde d'après. Les dirigeants mondiaux et les multinationales ont repris leurs politiques et pratiques habituelles et ont engendré encore plus d'inégalités.
Oui, même malgré les menaces et les trahisons, la promesse d'un monde plus équitable et juste représente toujours un véritable espoir. C'est le combat de milliers de personnes, de simples citoyens ou citoyennes, qui chaque jour organisent la résistance pour construire peut-être le monde d'après.
Voilà, donc nous restons optimistes malgré tout. Si vous voulez des détails pays par pays, c'est très simple. Vous allez sur le site Amnesty et vous avez accédé pays par pays, je dirais, à chaque situation qui vous intéresse. Bien sûr, le rapport fait 400-500 pages, mais vous pouvez, de manière très sélective, vous intéresser à un domaine particulier. Il est très complet et à mon avis, ça vaut le coup d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Très rapidement s'intéresser à ce que dit ce rapport pour la France. Alors, on ne va pas détailler tout ce qui est dit. Je vous renvoie encore une fois à ce rapport sur le site où vous pouvez le consulter également en bouquin. Hein, il existe. Mais allez voir sur le site, c'est très intéressant. Et ce que dit ce rapport pour la France, c'est que de nouvelles lois portant atteinte à nos libertés, des violences policières, la persistance des discriminations, la faiblesse des politiques d'accueil pour les personnes exilées, l'atteinte au droit d'asile, etc. En 2021, la France est loin d'avoir été exemplaire en matière de droits humains. Alors, un état des lieux est fait dans ce rapport. Et comme pour tous les autres pays, Amnesty International a analysé la situation française sur la base d'un seul critère, le respect du droit international et des droits humains. Alors, quel bilan pour la France ? Alors, on en a tiré rapidement que la fameuse devise qui fait l'honneur de notre nation, liberté, égalité, fraternité, était de plus en plus mise à mal, n'est-ce pas ? Alors, parlons de la liberté, Patricia, par exemple.
En France, en 2021, des lois comme celle entre guillemets, pour une sécurité globale préservant les libertés, ou cette loi intitulée « Responsabilité pénale et sécurité intérieure », fermez les guillemets, ont porté atteinte à nos libertés fondamentales, notamment la liberté d'informer et le respect de la vie privée. Amnesty a également documenté de nouveaux cas de violences policières.
Qu'en est-il de l'égalité, Jean-Marie ?
Alors, pour ce qui concerne l'égalité en France, donc en 2021, les contrôles d'identité discriminatoires, autrement dit les contrôles aux faciès, restent une pratique courante de la part des policiers. Le vote de la loi sur le respect des principes de la République fait craindre une hausse des pratiques discriminatoires et de la stigmatisation à l'encontre des associations et des personnes musulmanes.
Voilà, et je terminerai sur la fraternité. En France, en 2021, les politiques d'accueil pour les personnes exilées restent très insuffisantes. La façon dont les autorités françaises ont répondu aux besoins de protection des personnes afghanes n'a pas été à la hauteur des enjeux. Pourtant, nous avons les moyens d'accueillir ces populations. La situation à Calais est restée alarmante, alors que là aussi la France a les moyens de manifester dignement sa fraternité avec les personnes réfugiées ou demandeuses d'asile et de respecter leurs droits. Voilà donc le point de vue général d'Amnesty International à travers cette devise, notre devise française. Et pour plus de tout ça est très détaillé, très analysé dans 5-6 pages dans le rapport donc, d'Amnesty International que vous pouvez aller lire sur le site directement. Voilà. Donc nous vous y encourageons. Passons à l'Éthiopie. Alors, on en a beaucoup parlé, puis un peu moins, et on en reparle.
Oui, on en reparle un peu, mais c'est quand même... on est loin de l'attention des médias par rapport à d'autres pays, bien évidemment. Le Tigré occidental est devenu, en fait, le théâtre de crimes contre l'humanité. Mercredi 6 avril dernier, donc, Amnesty a publié avec Human Rights Watch un nouveau rapport révélant que dans la zone du Tigré occidental, les forces de sécurité Amara, des milices et les autorités nouvellement nommées dans cette région mènent depuis fin 2020 une campagne coordonnée de nettoyage ethnique et commettent des violences généralisées. Homicides, viols, détentions massives et transferts forcés contre les membres de l'ethnie tigréenne qui s'apparentent à des crimes de guerre et à des crimes contre l'humanité. Alors, le Tigré donc, est une des régions de l'Éthiopie. Et j'ai cité aussi la sécurité, les forces de sécurité Amara. C'est une deuxième région proche du Tigré et qui est en conflit, bien sûr, maintenant avec eux. Okay. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres ?
Oui, alors, un petit rappel, hein, l'Éthiopie est un État fédéral de 115 millions de personnes, donc un grand État en Afrique, en termes de population. La possibilité de faire sécession est inscrite dans la Constitution fédérale éthiopienne, hein, puisque, comme tu l'as dit, Jean-Marie, on a un regroupement des ethnies différents. Voilà, ouais, et moi qui suis allé, je peux dire qu'entre le Nord et le Sud, c'est tout à fait différent.
J'imagine.
Voilà.
J'imagine.
Donc, le Tigré est une des régions du pays, avec l'Amara qui est proche. L'ethnie tigréenne est minoritaire dans le pays, elle représente environ 6% de la population. Alors, on doit se rappeler que le conflit en Éthiopie a officiellement démarré dans la nuit du 3 au 4 novembre de 2020. Le gouvernement éthiopien a accusé les forces du Front de libération des peuples du Tigré d'avoir attaqué l'armée fédérale éthiopienne basée au Tigré et a décidé de lancer une offensive dans cette région.
En réalité, les tensions politiques datent de bien avant. Lorsque le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé au pouvoir en avril 2018, les autorités régionales du Front de libération, qui ont dominé la vie politique pendant près de 30 ans, lui ont reproché de les avoir écartés du pouvoir et de marginaliser la minorité tigréenne du pays. De son côté, le gouvernement fédéral accusait ce front de soutenir des forces d'opposition favorisant les tensions dans ce pays.
Alors, essayons de voir maintenant quels sont les principaux acteurs de ce conflit. Donc, on rappelait que ce conflit a éclaté donc en novembre 2020, comme Jean-Michel l'indiquait. Et elle oppose en premier lieu donc le gouvernement fédéral éthiopien au gouvernement régional, lui, du Tigré. Mais il a ravivé d'anciennes querelles et de nombreux acteurs s'y sont greffés. De manière générale, tous ceux qui avaient un grief envers le Front de libération et sa gouvernance passée de l'Éthiopie pendant donc 30 ans, envers le Front de libération et sa gouvernance passée, ont apporté leur soutien au gouvernement fédéral. Donc c'est le cas des régions d'Amara et d'Afar, qui est une autre région également proche du Tigré, mais aussi de l'Érythrée, sachant que l'Érythrée, il y a eu une séparation faite
douloureuse,
douloureuse avec l'Éthiopie que le Premier ministre Abiy Ahmed, que tu as cité tout à l'heure, a fait, et ce qu'il lui a valu derrière, le prix Nobel de la paix,
voilà,
à ce moment-là.
Avec d'ailleurs le président, oui, Abiy Ahmed a eu ce prix Nobel
ce
de
prix
la
Nobel
paix.
Ce prix Nobel de la paix, dû à ce fait-là, voilà, d'avoir soi-disant mis la paix.
Apaisé.
Au bout de 30 ans de guerre environ.
Voilà.
Voilà. D'accord.
Donc, l'Érythrée a envoyé aussi des forces armées en soutien au gouvernement.
Voilà. Alors, en fait, il y a eu des moments clés dans ce conflit, on va essayer de les rappeler. En novembre 2020, le gouvernement fédéral et ses alliés ont lancé une offensive pour prendre le contrôle du Tigré. Et le 28 novembre 2020, le Premier ministre a déclaré la victoire. Pendant les premières offensives de 2020, les forces fédérales éthiopiennes et leurs alliés ont perpétré des crimes de guerre contre la population tigréenne en ayant recours notamment à des bombardements aveugles de villes et à des destructions d'hôpitaux, d'écoles, d'églises, mais aussi des exécutions extrajudiciaires de masse et restrictions des accès à l'aide humanitaire, forçant des dizaines de milliers de personnes à fuir au Soudan voisin. On a très bien vu ça à la télévision, il y a eu quand même pas mal de reportages, et dans d'autres parties du Tigré. Elles ont mené depuis fin 2020 une campagne coordonnée de persécutions fondées sur l'origine ethnique.
Les combats ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Ils ont plongé le nord du pays dans une profonde crise humanitaire. Nos recherches ont également établi que le viol et les violences sexuelles avaient été alors utilisés comme armes de guerre.
Alors pour continuer dans le temps, mais en juin 2021, les combattants donc du Front de libération du Tigré avaient repris l'essentiel, puis avancé dans les régions voisines, qui était partie prenante du conflit, donc la région des Afar et d'Amara. Il progressait ainsi de 200 km, presque, donc de la capitale d'Addis Abeba. Donc, au cours de cette période, Amnesty a pu documenter des violations aussi graves des droits humains commis par ses combattants, dont des viols et violences sexuelles, des exécutions sommaires et pillages lors d'attaques menées, particulièrement dans la région Amhara. Après cela, les forces gouvernementales ont réussi à repousser le Front de Libération, qui a battu en retraite pour revenir dans sa région au Tigré. Et aujourd'hui, nous en sommes là.
Voilà, donc on peut voir d'ailleurs que dans la conquête du Tigré, quand on a repoussé les Tigréens vers le nord, on a commis des crimes de guerre. Et quand les Tigréens sont revenus, ils l'ont fait dans l'autre sens. Alors, les forces régionales Amhara et les forces alliées au gouvernement éthiopien dans le Tigré occidental se sont rendues donc coupables des crimes de guerre, d'homicide, de torture, de viol, d'expulsion, de transfert forcé et disparition forcée, commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique visant une population civile en application de la politique d'un État ou d'une organisation. Ces violations sont clairement des crimes contre l'humanité.
Alors, on a détruit, les récoltes ont été détruites, les terres ont été saccagées, etc. Donc, il y a une situation humanitaire qui est quand même préoccupante aujourd'hui.
Avant la guerre, une partie de la population avait déjà besoin d'une aide humanitaire. Mais ce besoin a littéralement explosé. Avec l'arrêt de l'activité agricole durant toute la durée des combats et la sécheresse qui sévit dans la région ces dernières années, la famine menace.
Oui, tout à fait. Donc, où en est-on aujourd'hui ?
Oui, faisons le point.
Donc, le 24 mars dernier, une trêve humanitaire avait été annoncée par le gouvernement fédéral éthiopien dans la région du Tigré, touchée par le conflit. Trêve que les autorités tigréennes ont ensuite accepté de respecter si une aide suffisante parvenait au Tigré dans un délai raisonnable.
Le 1er avril 2022, le programme alimentaire mondial de l'ONU annonçait dans un tweet que les premiers convois humanitaires avaient pu bénéficier de cette trêve et atteindre Mekele, la capitale du Tigré.
Bon, donc on commence à se voir que ça se débloquait un peu.
Alors, quelles sont nos demandes, Patricia ?
Alors, nos demandes.
La communauté internationale doit agir rapidement en faisant clairement savoir à toutes les parties au conflit en Éthiopie qu'elles doivent protéger la population civile, cesser toute incitation à la haine, permettre un accès et un suivi humanitaire sans entrave et respecter les droits humains. Elle doit soutenir toutes les initiatives visant à enquêter de manière impartiale sur les atteintes aux droits humains, identifier les responsables et lutter contre l'impunité.
Alors, nos demandes aussi concernent le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui doit rapidement mettre en place la Commission internationale d'experts aux droits humains, dont le principe a été adopté en décembre 2021 lors d'une session extraordinaire consacrée à la situation en Éthiopie. Il faut également lui donner les ressources nécessaires pour lui permettre d'enquêter sur ces violations dont nous venons de parler, commises par l'ensemble des parties.
Comme on l'a dit tout à l'heure, aller et retour, on s'est vengé. Voilà. Alors moi j'ajouterais peut-être une petite recommandation personnelle, mais que je pense que vous partagerez, chers amis ici, c'est qu'on ne se précipite pas pour attribuer des prix Nobel de la paix à certaines personnes.
Oui, ça serait bien.
Abiy Mohamed, il est gentil, mais il est arrivé avec le prix Nobel de la paix parce qu'il avait fait la paix avec l'Érythrée, etc. Et puis 6 mois après, c'était reparti dans des conflits internes tels qu'on les a exposés là.
C'est la boulette.
Et c'est pas le premier prix Nobel de la paix qui ne justifie pas du tout ce qu'on lui a attribué.
Oui, voilà.
Aung San Suu Kyi, pour ne pas la nommer.
Donc par exemple. Mais d'autres aussi. Et certains lieux, voilà. Donc, je porte cette réflexion, chers amis auditeurs. Allez, on va passer maintenant à la pause musicale. Alors, on a choisi d'ailleurs pour un petit peu... on a choisi Bob Dylan avec Masters of War, une chanson des années 65, 66, je ne sais plus très bien. Mais c'est d'ailleurs, Bob Dylan dit que c'est la seule chanson dans laquelle il souhaite la mort de quelqu'un.
Ah. Alors, c'est charmant.
Voilà. Donc je vous renvoie aux paroles, c'est pas mal. Donc il s'attaque aux vendeurs de canons, etc., à ceux qui les utilisent, aux marchands d'armes en général. Et à la fin, il dit j'aimerais bien suivre vos cercueils quand même. Voilà, donc je vous laisse écouter ça, un petit rappel. Vas-y, Will.
Come, you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, that hide behind desks. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire, and then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children into the world. For threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know but to talk out of turn? You might say that I'm young, you might say I'm unlearned, but there's the one thing I know. I'm younger than you. That even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die, and your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon, and I watch while you're lowered down to your deathbed. And I stand over your grave till I'm sure that you're dead.
Voilà. Eh bien, écoutez, chers amis de Radio Le Bigès, vous êtes toujours avec l'équipe locale d'Amnesty International, le groupe d'Albi. Et écoutez, on va continuer par l'Ukraine. Mais en attendant, je crois que ça fait du bien d'avoir entendu Bob Dylan nous rappeler un petit peu qu'il y a des gens qui travaillent constamment à placer leurs armes et d'autres à les utiliser de la manière dont on peut le voir dans les faits qu'on vous rapporte ici. Voilà. Alors passons à l'Ukraine, où malheureusement la situation est celle que vous connaissez, mais on va s'attarder sur les terribles exactions des forces russes autour de Kiev, en exposant un certain nombre de témoignages qu'Amnesty International a pu recueillir. Et donc on va s'intéresser à ce qui a été perpétré par les forces russes à Boutcha, dont on a beaucoup parlé dans la presse normalement, c'est dans la banlieue de Kiev, mais ça ne pourrait être qu'une partie émergée de l'iceberg, et on fera à mesure que les régions sont quittées par les forces russes, on en découvre de plus en plus. Donc, quelques témoignages pour préciser un peu ça, Patricia.
Abattu pour avoir regardé un tank par-dessus une barrière. Abattu pour avoir voulu apporter de l'aide. Abattu en présence de sa fille. Abattu alors qu'il récupérait de la nourriture dans une épicerie. Amnesty International a interrogé plus de 20 personnes dans des villages et des villes proches de la capitale Kiev, dont plusieurs témoins directs des terribles violences commises par les forces russes sur des civils non armés. Exécutions extrajudiciaires, homicides délibérés, viols, manœuvres d'intimidation, etc.
Alors, la secrétaire générale d'Amnesty International, donc Agnès Callamard, a déclaré, je la cite, « Les témoignages montrent qu'en Ukraine, des civils non armés sont tués chez eux et dans la rue, dans des actes d'une cruauté innommable et d'une violence choquante. »
Ouais. Donc, Amnesty International qui a recueilli des informations sur des exécutions extrajudiciaires, des homicides illégaux commis par les forces russes. Nous allons donner un petit peu la preuve et l'exemple avec tout ce que nous avons pu recueillir sur le terrain. Et on va commencer par la ville de Podnanivka, le 9 mars. Un homme non armé est abattu d'une balle dans la tête par des soldats russes devant sa famille, Patricia.
Une femme de 46 ans, originaire de ce village, a vu les forces russes entrer dans son village le 7 ou le 8 mars et garer leurs chars dans ses rues. Le 9 mars, dans la soirée, elle a entendu des tirs briser ses fenêtres au rez-de-chaussée. Elle et son mari ont crié qu'ils étaient des civils et qu'ils n'étaient pas armés. Quand ils sont descendus, deux soldats russes les ont poussés avec leur fille dans une pièce servant de chaufferie. Ils disent « Ils nous ont poussés de force à l'intérieur et ils ont claqué la porte. » Une minute plus tard, ils ont rouvert la porte pour demander à mon mari s'il avait des cigarettes. Il a répondu que non, qu'il avait arrêté de fumer. Ils ont tiré dans son bras droit. L'autre a dit « Achève-le » et ils lui ont tiré une balle dans la tête. « Il n'est pas mort tout de suite », poursuit-elle. De 21h30 à 4h du matin, il respirait encore, même s'il n'était pas conscient. Je l'ai supplié. « Si tu m'entends, bouge ton doigt !» Il n'a pas bougé le doigt, mais il a posé sa main sur mon genou et l'a serré. Il saignait abondamment. Quand il a rendu son dernier souffle, je me suis tournée vers ma fille et je lui ai dit « Je crois que papa est mort ». Un voisin a été témoin à l'irruption des soldats russes dans la maison de cette femme ce soir-là. Il a confirmé avoir vu le corps de son mari gisant dans un coin de la chaufferie. Plus tard dans la journée, la femme s'est enfuie de Podnanivka avec son enfant. Elle a dû laisser derrière elle sa belle-mère, une femme de 81 ans à mobilité réduite.
Alors voilà pour un premier témoignage poignant. Et on va passer à Vorzel, autre ville près de proche de Kiev, le 3 mars. Jean-Marie, les parents de Katerina Tchakova sont tués par balle devant leur maison.
Alors, le 3 mars, donc dans ce village, Katerina Tchakova, 18 ans, se trouvait chez elle avec ses parents. Quand plusieurs chars portant la lettre Z, donc, qui est utilisée par les forces russes pour marquer leurs véhicules pendant cette invasion, ont descendu dans la rue. Sa mère, Natalia, et son père, Valérie, ont quitté la cave où ils se cachaient pour aller dans la rue et ils ont ordonné à Katerina de rester où elle était et c'est là qu'elle a entendu les tirs. Une fois que les chars étaient passés, j'ai sauté par-dessus la clôture qui nous sépare de la maison des voisins. Je voulais vérifier s'ils étaient vivants. J'ai regardé par-dessus la barrière et j'ai vu ma mère allongée sur le dos d'un côté de la route et mon père sur le ventre de l'autre côté de la route. J'ai vu de gros trous dans son manteau. Le lendemain, je me suis approché d'eux. Mon père avait 6 gros trous dans le dos et ma mère, 1 plus petit trou dans la poitrine.
Selon Katerina, ses parents étaient en civil et n'étaient pas armés. Le 10 mars, un bénévole en charge des évacuations dans la banlieue de Kiev a aidé Katerina à quitter Vorzel. Il nous a affirmé avoir vu les corps des parents de Katerina allongés dans la rue, tout près de leur domicile. Dans une vidéo que Amnesty International a vérifiée, on voit Katerina avec le bénévole inscrire les noms, date de naissance et date de décès de ses parents sur un morceau de carton et le placer près des corps recouverts de couverture. Là donc un deuxième exemple également poignant. Alors on va passer à Hostomel le 3 mars. Le maire de la ville, Youri Prilipko, est abattu alors qu'il livrait de la nourriture et des médicaments dans des abris anti-bombes.
Pendant les premiers jours de l'occupation russe de la ville d'Hostomel, Taras Kouzmak circulait en voiture pour livrer de la nourriture et des médicaments dans les abris anti-bombes où étaient rassemblés des civils. Le 3 mars, à 13h30, il se trouvait avec le maire de la ville, Youri Prilipko, et deux autres hommes, quand leur voiture a été la cible de tirs provenant d'un grand immeuble d'habitation qui avait été pris par les forces russes. Les quatre hommes ont essayé de sauter du véhicule, mais l'un d'eux, Ivan Zoria, a été tué sur le coup, tandis que Youri Prilipko, le maire, s'est effondré sur le sol blessé. Taras Kouzmak et l'autre rescapé se sont cachés derrière une pelleteuse pendant des heures, tandis que les tirs continuaient.
Oui, ils nous ont repérés et ont ouvert le feu immédiatement. Il n'y a pas eu de sommation. Je ne pouvais pas voir le maire, mais je l'entendais. Je savais qu'il était blessé, mais je ne savais pas si c'était une blessure mortelle ou non. Je lui ai seulement dit de ne pas bouger, de rester totalement immobile. Ils nous ont alors de nouveau tiré dessus vers 15 heures et environ une demi-heure plus tard, j'ai compris qu'il était mort. Juste avant de mourir, une personne a une respiration particulière quand elle rend son dernier souffle. Ivan Zoria a eu la tête arrachée. Je pense qu'ils ont dû utiliser une arme de gros calibre. Ce que rapporte le rescapé Taras Kouzmak vivant à Hostomel. Deux autres personnes vivant à Hostomel nous ont dit qu'elles avaient vu le corps du maire près d'une église lors de funérailles improvisées organisées pour lui quelques jours plus tard. D'autres habitants ont confirmé que dans les jours précédant sa mort, le maire avait livré des vivres et des médicaments dans toute la ville, toujours au volant d'un véhicule civil.
Voilà, donc on vous laisse un petit peu juger ces situations particulières. On va passer à un autre exemple dans la ville d'Hostomel, le 13 mars. Le fils de Volodymyr Zalioupani est emmené, entre guillemets, par les forces russes. Il est ensuite retrouvé mort, tué d'une balle dans la tête.
Oui, Amnesty International a recueilli trois autres témoignages faisant état d'homicides illégaux de civils commis par les forces russes, dont celui d'une victime de viol dont le mari a été exécuté extrajudiciairement.
Le 9 mars, une habitante d'un village situé à l'est de Kiev a vu deux soldats russes entrer chez elle, tuer son mari. Ils l'ont violé à plusieurs reprises sous la menace de leurs armes, pendant que son jeune fils se cachait dans une pièce voisine. Elle a finalement réussi à s'enfuir avec son fils et à rejoindre une zone sous contrôle ukrainien.
Milena, elle, a 24 ans et est originaire de Boutcha. Elle a vu le corps d'une de ses voisines étendue par terre devant chez elle. Sa mère a expliqué à Milena que sa fille avait été abattue au premier jour de l'invasion alors qu'elle regardait simplement passer un véhicule militaire russe par-dessus la barrière. Amnesty Lab, le laboratoire d'Amnesty International, a pu vérifier de manière indépendante une vidéo situant la tombe où elle a été enterrée. De leur côté, Vladimir Zalioupani et sa femme ont fui la ville d'Hostomel dans les premiers jours de l'invasion, mais leur fils Seri, 39 ans, voulait rester. Au début, ils se sont parlé tous les jours au téléphone. Seri leur a décrit les violents combats qui faisaient rage dans la ville. À partir du 4 mars, Volodymyr n'a plus réussi à joindre son fils. Les amis restés sur place sont alors partis à sa recherche. Quand ils ont demandé aux voisins, ceux-ci leur ont dit que mon fils avait été emmené par les Russes le 13 mars, alors qu'il se trouvait dans le sous-sol. En cherchant, ils l'ont trouvé derrière les garages ce même immeuble. Ils ont dit qu'il avait été abattu d'une balle dans la tête. Voilà. Voilà ce qui se passe à travers quelques exemples et j'espère que à ce niveau-là, on finira par juger tous ces crimes de guerre qui sont réalisés, qui sont exécutés par les forces russes, c'est le cas de dire, exécutés. Alors, la vie sous occupation russe, c'est quand même quelque chose de très particulier, Patricia.
Les personnes que nous avons interrogées nous ont aussi raconté la difficulté de vivre sous l'occupation russe. L'électricité, l'eau et le gaz ont été coupés dans les premiers jours de l'invasion. La nourriture était difficile à se procurer. Les téléphones portables, passait mal et selon certains témoignages, les soldats russes confisquaient ou détruisaient les téléphones portables dès qu'ils en voyaient un. Les menaces de violence et les manœuvres d'intimidation étaient aussi fréquentes. Un habitant d'Hostomel a par exemple raconté avoir vu tout un dortoir de personnes qui s'abritaient des bombardements être contraints de sortir. Les militaires russes ont alors ouvert le feu au-dessus de la tête de ces personnes, les obligeant à se coucher par terre. Deux hommes de Boutcha ont également déclaré que des tireurs isolés les avaient visés régulièrement quand ils allaient récupérer des denrées alimentaires dans une épicerie détruite à côté de chez eux.
Voilà, tout ce panorama décrit bien ce que l'on nous explique, c'est-à-dire qu'en fait, on est bien en présence de crimes de guerre et autres violations du droit international humanitaire. On a devant nous des homicides délibérés de civils, des viols, de torture, la torture, des traitements inhumains de prisonniers de guerre. Et tout ça, ça constitue des violations de droits humains et des crimes de guerre. Toutes les personnes qui commettent des crimes de guerre doivent être amenées à rendre des comptes devant la justice. Alors, notre secrétaire général, Agnès Callamard, a rappelé que, je cite, « Tandis que ces terribles témoignages de la vie sous occupation russe continuent de nous parvenir, les victimes en Ukraine doivent avoir l'assurance que la communauté internationale est déterminée à demander des comptes pour leurs souffrances. »
En effet, en vertu du principe de la responsabilité de la hiérarchie, les supérieurs hiérarchiques, notamment les commandants militaires et les dirigeants civils comme les ministres et les chefs d'État, qui savaient ou avaient les moyens de savoir que leurs forces commettaient des crimes de guerre et qui n'ont pas pris de mesures pour les en empêcher ou sanctionner les auteurs, doivent être aussi considérés comme pénalement responsables.
Voilà. Et comme à l'heure où nous vous parlons, la guerre est loin d'être terminée en Ukraine. Elle s'est reportée pour l'essentiel sur l'Est et le Sud, la côte. Ben écoutez, je crois qu'il faut continuer à lutter pour avoir un max de preuves, pour limiter ces crimes, en étant présent, en râlant le plus possible, montrant du doigt, etc. Et accumuler les preuves, parce qu'un jour, il faudra bien que ces gens-là rendent des comptes. Voilà. Donc, on compte sur vous pour participer à toute action qui permettrait d'appuyer pour mettre en valeur tous ces crimes. Bien. On va terminer notre émission par l'accueil des réfugiés en Pologne. Deux poids, deux mesures, Patricia. Nous t'écoutons.
À l'heure où un véritable élan de solidarité avec les personnes fuyant l'Ukraine se manifeste en Pologne et partout en Europe, d'autres réfugiés qui se pressent à la frontière avec le Bélarus sont, eux, victimes de refoulements illégaux et de violences. Ces derniers, qui sont principalement originaires de Syrie, d'Irak ou d'Afghanistan, ne semblent pas mériter le même traitement que les Ukrainiens. Cette solidarité sélective interroge et met en lumière l'hypocrisie des politiques d'accueil. En effet, après une interruption durant l'hiver, un nombre accru de demandeurs d'asile tentent de rejoindre l'Europe en franchissant la frontière entre le Bélarus et la Pologne. Ils se heurtent à des clôtures barbelées et font l'objet de refoulements répétés et violents de la part tant des gardes frontières bélarusses que des gardes frontières polonais. S'ils ne sont pas arrêtés et refoulés au Bélarus, où ils ont d'ailleurs passé l'hiver dans la forêt avec de la neige, arrêtés et refoulés, parfois sous la menace des armes, ils sont placés de façon systématique en détention en Pologne. Ces personnes sont détenues pour une durée prolongée et indéfinie, dans des centres surpeuplés, dans des conditions indignes et sans accès à des médecins ou à des psychologues. L'attitude des autorités polonaises est empreinte de racisme et d'hypocrisie. N'est-ce pas ce pays qui a commencé à construire un mur sur la frontière avec le Bélarus ?
Eh oui.
Alors, commençons par la situation dans un centre, celui de Vezrzin. C'est une base militaire qui enferme aujourd'hui 600 personnes en demande d'asile dans des conditions inhumaines. 24 hommes dans des pièces de 8 mètres carrés. un réfugié syrien témoigne que les gardiens accueillent les nouveaux réfugiés en leur disant « Bienvenue à Guantanamo » et ajoute « Après la torture en Syrie, les menaces à ma famille, puis des mois sur la route, je pense que ce camp a fini de me briser. » Le centre de Les Novola. Dans cet autre centre, les détenus ont raconté que le traitement infligé par les gardiens leur donnait le sentiment d'être déshumanisés. Ils sont appelés par un numéro. On leur inflige des sanctions excessives. Ils sont insultés avec des remarques racistes, subissent des fouilles à corps prolongées et des mauvais traitements psychologiques.
Alors on va prendre le témoignage de Yezda, qui est une demandeuse d'asile kurde, âgée de 30 ans, arrivée en Pologne via le Bélarus avec son mari et leurs trois enfants. Lorsqu'on lui a dit qu'elle et sa famille allaient être renvoyées en Irak, elle a hurlé et supplié les gardiens. Elle raconte « Pendant que je pleurais, deux gardiens m'ont immobilisé, ainsi que mon mari. Ils nous ont lié les mains derrière le dos et un médecin nous a fait une injection qui nous a affaiblis. Ils m'ont forcé à monter dans l'avion. Elle s'est cassée le pied alors qu'elle résistait pour ne pas monter dans l'avion. Yezda et sa famille ont été reconduits à Varsovie, la compagnie aérienne ayant refusé de les emmener en Irak. À ce jour, cette famille se trouve toujours dans un camp en Pologne. Je crois que c'est un excellent exemple.
Malheureusement, ces exactions ne sont pas seulement réservées aux étrangers arrivant en Pologne, à la porte de l'Europe. En Ukraine, il y a des étrangers qui vivaient, des étudiants ou des travailleurs venant des pays africains, qui ont voulu fuir l'Ukraine au début de la guerre et qui se sont fait refouler à la frontière de la Pologne. Amnesty International dénonce cette horreur à la frontière de l'Europe.
Cette discrimination doit cesser. Bon, c'est très bien que la Pologne accueille tous les réfugiés qu'elle accueille. Et je crois que il faut quand même pas faire de tri. C'est le moins qu'on puisse dire.
Scandaleux.
Radio Albigès, notre émission se termine et à travers les situations que nous venons d'évoquer, nous ne pouvons que constater que le chemin vers le respect des droits humains dans le monde est encore très très long. Il faut pourtant que ces droits continuent à progresser. Il faut agir avec Amnesty International et d'autres associations qui œuvrent dans le même but pour faire pression partout dans le monde sur les autorités qui foulent aux pieds les droits et libertés. Vous pouvez intervenir sur les situations que nous venons de vous présenter, vous informer, et bien d'autres situations encore sur le site, hein, vous verrez, ça ne manque pas malheureusement. Et vous pouvez signer nos pétitions en ligne, donc sur le site amnesty.fr. Si vous souhaitez agir avec le groupe Amnesty International d'Albi, envoyez-nous un courriel sur notre messagerie albi@amnestyfrance.fr. Nous prendrons alors contact avec vous. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et de nous faire part de vos commentaires et suggestions à cette même adresse. N'oubliez pas,
vos signatures ont du pouvoir.